Bonjour, aujourd'hui on va commencer sur le. On va finir d'abord l'histoire de Shlomo et après on va expliquer un peu, on va parler un peu sur les sujets d'actualité. Les élèves de Rabbi Akiva, voilà, on a la moitié du chasse ici, ce qu'on a trouvé dans le chemin dans la voiture. Le Shlomo Ameler, on a dit que c'était le Shlomo Ameler, c'était le fils de David Ameler. Et voilà que ce Shlomo-là, il va bientôt mourir. Et son fils, avant de mourir, son fils, il avait un fils qui s'appelle Rechavam. Rechavam, monsieur, dès que Shlomo Amelech est décédé, Rechavam, le fils de Shlomo, il a décidé de prendre place. Mais dès qu'il est devenu roi, alors les gens, ils sont venus, tous les gens, ils sont venus, vous savez, quand il y a un nouveau président, par exemple, toujours on va commencer à parler, est-ce qu'on peut baisser un peu les taxes, etc. Donc ils sont venus, ils ont dit, regarde, ton père Shlomo, juste en parenthèse, Shlomo Ameler, à la fin de sa vie, il a pris la fille de Paro, la fille de une égyptienne, comme le Rambam, il nous dit qu'il les a tous convertis. Il ne faut pas croire que Shlomo Ameler, celui qui croit que Shlomo Ameler, on sait qu'il a eu beaucoup de femmes, Shlomo Ameler, le roi Salomon, mais bien qu'il a eu beaucoup de femmes, tous il les a convertis avant. C'est pas qu'il allait avec des non-juifs. Ça c'est un, c'est le Rambam explicite qui écrit ça. Mais en plus de ça, Shlomo Ameler, il est un peu à la fin. Il faut comprendre c'est quoi l'histoire. Mais en tous les cas, j'avais déjà expliqué dans les premiers cours pourquoi Shlomo Ameler il voulait se marier avec des gens comme ça. Il y a des gens au séminaire. Il y a des bonnes filles, des très belles filles au séminaire. Pourquoi aller chercher jusqu'en Égypte? Pourquoi aller jusqu'en Melbourne si on peut aller, ouais? Pourquoi aller jusqu'à Melbourne si on peut trouver en Israël? Ouais, il y a des très belles filles. Pourquoi Shlomo il a besoin d'aller jusqu'en Égypte? La réponse, elle est que Shlomo Ameler, comme j'ai expliqué, Shlomo Ameler était d'une intelligence telle qu'il était dans un niveau, dans des autres sphères. Il n'était pas du tout dans nos sphères à nous. Shlomo Ameler, il voulait prendre tous les particules de Touma. Ouais, toutes les particules de sainteté qui se trouvent dans tout le monde et les ramener vers le bien. Okay? Parce que chaque fois qu'on avait dit que les forces du mal, ils veulent toujours s'accrocher, les forces du mal, ils veulent toujours s'accrocher dans le bon. On a expliqué l'autre fois, le dernier cours, que pourquoi on est en exil. Pourquoi toi tu es à Paris, l'autre il est en Thaïlande, l'autre il est venu de je sais pas où. L'autre, il est venu d'Australie, l'autre, il est venu de, je sais pas où, d'Égypte, l'autre, il est venu de Turquie. Pourquoi il y a des Juifs de partout? Pourquoi? Parce que, en fait, la raison vraie, c'est qu'Hachem, comme on est en exil, Adam Arishon, quand Hachem, il a créé Adam Arishon, il a créé de façon, c'est un homme pur. Okay? Le problème, c'est que quand il a péché, Adam Arishon, il a envoyé des particules de Neshama un peu de partout. Okay? Et les forces du mal, ils les attrapent. Parce que les forces du mal, leur carburant, c'est la sainteté. Donc, en faisant des bonnes actions, on récupère ces particules. Vous avez compris? Toutes les particules de Neshama qui sont parties un peu de partout dans le monde, on est là, en France, pour les ramener. Et comment? En faisant des bonnes actions. C'est pour ça qu'en Égypte, il y a eu l'esclavage en Égypte pour ramener toutes ces particules. Et c'est pour cela qu'on n'a plus le droit d'habiter en Égypte. Parce que ça y est, tout le travail en Égypte, il a été fait. Maintenant, il faut aller peut-être en Australie, mais en tous les cas, en Égypte, il est fait le travail. Ouais. En tous les cas, donc le travail de Shlomo Ameler, c'était d'essayer de rattraper toutes ces saintetés-là, toutes les particules de sainteté-là, de les ramener vers le bon. Donc Shlomo Ameler, il s'est marié avec une fille de Paro. La fille de Paro, elle a commencé à détourner un peu la tête de Shlomo Ameler. Elle a dit, il faut que tu achètes plein de serviteurs. Et voilà qu'il achète des tonnes de serviteurs. Tellement qu'il y avait des serviteurs que le palais et les studios ne suffisaient pas. Il fallait construire des maisons pour ça. Mais il a construit des maisons. Il a pris des terrains à Jérusalem. Et il a construit plein, plein, plein de maisons. Pourquoi? Pour faire habiter tous les serviteurs que Madame voulait. Et Yerovam Ben Evad, au début, c'était un grand sadique. C'est Yerovam Ben Evad, lui, il allait chez Shlomo, il a dit, comment tu te permets de faire des choses comme ça? Avant, les Juifs, quand ils voulaient pour arriver au Beth Amikdash, ils avaient un chemin. Ton père, il avait prévu tout un logistique, tout un chemin pour monter à Jérusalem de plusieurs endroits. Toi, maintenant, tu as bloqué toutes les entrées parce que tu as construit plein de trucs. Et donc, tu as fermé toutes les entrées pour... Donc, c'est plus pratique de venir monter à Jérusalem. Donc, comme c'est plus pratique, qu'est-ce que tu fais? Shlomo HaMelech, il dit, comme ça, tu me parles. Il a voulu le tuer, vite, il s'est sauvé. Mais en tout cas, il lui a dit le mot. Il lui a dit, ce qu'il pensait de lui. Et donc, Shlomo HaMelech, il a construit. Donc, après, il est mort. Après que Shlomo HaMelech, il est mort, son fils Rechavam a pris la place. Monsieur Rechavam, les gens, ils arrivent, ils disent, Monsieur Rechavam, êtes-vous prêt à un peu baisser les taxes? Votre père, il s'est fait un kiff, votre père Shlomo, il s'est fait un kiff sur nous. Il a voulu construire des tonnes de maisons à cause de madame, ok? Donc il a pris des tonnes d'impôts. Maintenant, il faut se calmer, frérot, ok? Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi, je demande conseil. Il a demandé aux vieux, qu'est-ce que vous en pensez de baisser les taxes? Les vieux, ils ont dit, va selon va ce qu'ils te demandent, essaye d'aller vers eux. C'est d'accord? Qu'est-ce qu'ils ont dit les jeunes? Les jeunes, bien sûr. C'est malade. Si ton père, il les a fait payer 100, toi, tu leur fais payer 1000. Genre, sois encore plus dur. Et qui l'a écouté, le fils de Shlomo? Les jeunes ou les vieux? Les jeunes. C'est ce qu'on dit dans la Torah. Binyan Naharim Stira. Mais Stira Zekenim Binyan. Je m'explique. La construction de jeunes, c'est une destruction. La destruction d'un vieux, c'est une construction. Ça veut dire quoi? Comment vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'un jeune, il n'a pas d'expérience. Le jeune, il veut faire plein de choses. Ouais, je vais faire ci, je vais ouvrir cette boîte, ce magasin. Je vais ouvrir une chaîne de magasins, de 30 magasins et tout ça et tout ça. Et après, il se prend, il n'a pas pris conseil. Il croit que Pitom, tout le monde l'a attendu à ce monsieur-là pour qu'il réussisse. Il y en a qui réussissent, c'est HM, ouais. Mais logiquement, ce n'est pas le premier et ce n'est pas le dernier qui voudra tenter. Donc, tu peux te prendre un truc. Donc, il faut prendre conseil. Pas essayer de faire tout selon ta tête. Et Rechavam, il a écouté qui? Rechavam, il a écouté les jeunes. Donc, quand il a écouté les jeunes, déjà, les gens, ils ont dit, Monsieur Rechavam, il ne nous plaît pas ce roi-là. Ils ont essayé, et c'était déjà prévu au temps de David. Le roi David, c'est un grand sadique. C'est un grand sadique. Toute sa vie, il n'a pas fait aucune bêtise. OK? Shlomo HaMelech aussi, il était tzaddik, ok? À la fin, je ne sais pas ce qui s'est passé, ouais, il a eu des petits embrouilles avec cette fille de Paro, mais après Shlomo, il y a son fils Rechavam qui commence à faire des choses que, pas se comporter comme il le faut, pas selon Hachem, mais il ne réfléchit pas assez, donc ça fait que la royauté va se dissocier. C'est-à-dire que, et c'est important d'écouter ça, pitom à ce moment-là, Il y a 12 tribus, il y a 10 tribus qui vont le baser. Rechavam, il va rester qu'avec 2 tribus, et le reste, 10 tribus, ils vont être contre lui. Et donc, pour ces 10 tribus, il y a un autre roi qui va se lever, il s'appelle Yerovam Ben-Evat. Alors, je vous explique, Yerovam Ben-Evat, il faut savoir, c'est des connaissances qu'il faut connaître. Dans tout le chasse, on voit ce Yerovam Ben-Evat, c'était un rachat. On l'appelle Choté ou Machatsi et Arabim. Il a fauté. Et il a fait fauter tout le public. Il n'a plus de part dans le Haba, il est cramé. Qu'est-ce qu'il a fait ce Yerovam Ben-Evat? Yerovam Ben-Evat, tout simplement, au début, il a étudié avec le Navi qui s'appelle Achia Shiloni. Achia Shiloni, il était 60 ans avant. Bon, je ne suis pas un prof d'histoire. Hein. Au début, ça va commencer, c'est un peu l'histoire, mais après, on attaque. 60 ans avant la sortie d'Égypte, il est né et il a vécu jusqu'au temps de Shlomo HaMelech. Ouais, Shlomo HaMelech, quand il a construit le Beth Amikdash, dit l'Agma dans Rosh Hashanah Daf Bet Gimel, ouais, et dit dans Malachim, et c'est écrit mes fois dans Malachim, 480 ans après la sortie d'Égypte, Shlomo HaMelech, il a commencé à construire le Beth Amikdash. Imaginez-vous, donc il est né 60 ans avant la sortie d'Égypte, il a vécu jusqu'au temps de Shlomo. Donc il a vécu longtemps. C'était un tzadik. Il connaissait toute la Torah. Il étudiait avec Yerovam Ben-Evat de la Torah. Ils étudiaient la Kabbalah jusqu'à qu'un jour, les Malachim, ils ont dit, mais comment tu peux te permettre à Dieu de lui transmettre à ces Yerovam Ben-Evat de la Torah cachée, alors que ce type-là, à la fin, il va complètement craquer. Écoutez comment Hachem était sympa avec lui. Yerovam Ben-Evat, il devient roi sur les 10 tribus. Okay, donc, il y a deux clans. Il y a le clan, le roi qui se trouve à Jérusalem, c'est le fils de Shlomo, ouais. C'est la dynastie de Shlomo, donc il a son trône, il a son truc à Jérusalem. Mais il est roi que sur, il règne sur deux tribus. Et il y a le, il y a le roi de Yérovam ben Nevat sur les 10 tribus, et lui, il n'est pas à Jérusalem. Maintenant, Yérovam ben Nevat, avec toute son intelligence et toutes ses connaissances, malheureusement, il a eu, à cause de son orgueil, un moment, déjà quand il a commencé à être roi, il y avait des voyous qui sont accrochés à lui, et des pervers, ils ont dit, nous, on veut faire la Vodazara, on veut servir la Vodazara à Dieu. Et Yérovam ben Nevat, il a dit, ok, je suis d'accord, vous allez faire la Vodazara. Et il a fait signer à tout le monde que tout celui qui le suit, il doit écouter ce qu'il dit à la lettre. Il a fait signer. Qu'est-ce qu'il a fait, Yérovam ben Nevat ? Yérovam ben Nevat, il les a forcés à tout le monde de faire la Avodah Zara. Pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'il a dit, regardez, c'était le moment de monter à la fête, à la régale. Et voilà que Yérovam ben Nevat, il commence à calculer. Si je viens à Jérusalem, ils ne vont pas me mettre dans la tribune des hommes importants. Parce que moi, l'homme important, c'est le roi Rechavam, le fils de Shlomo. Donc, ils ne vont pas me mettre. Et moi, je crains que si tous les Juifs qui me suivent à moi, ils vont venir à Jérusalem, Rechavam, il va réussir à les détourner. Tu entends ? Il va réussir à les détourner. Qu'est-ce qu'il a fait, Yérovam, à cause de ça ? À cause qu'il a peur de se faire détourner, il a dit, regarde, on va faire ce qu'on va faire. Il a mis des gardes tout autour de la frontière. Il a dit, il n'y a personne qui sort. Et il a dit, je vais faire 2 veaux d'or. Écoutez ça, 2 veaux d'or. Et tout le monde va se prosterner devant le veau d'or. Et il a tourné la tête, même des tzadikines, tout le monde a fait la Avodah Zara. Ça s'appelle Choté ou Machatzit Arabim. Tout ça à cause de quoi ? Tout ça à cause de quoi, Rabotai ? À cause de la Gava. Ok ? La Gava, les mauvaises midot. Entre parenthèses, parce qu'on a parlé de mauvaises midot, je veux parler de... On se trouve dans le moment de Sfirat HaOmer. Et là, ce moment de Sfirat HaOmer, ouais, on sait qu'on est en train de pèleriner, écoute ça, c'est magnifique, on est en train de pèleriner les élèves de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il avait 24 000 élèves, et ces 24 000 élèves, ils sont morts depuis Pessah jusqu'à Atzeret, jusqu'à Shavuot. Il y en a certains qui disent que ça s'est arrêté de mourir jusqu'au 33e jour. 24 000 élèves, mais ce n'est pas des élèves, c'est tous des Tanaïm, ok ? Et avant de commencer à dire c'est qui les élèves, il faut d'abord raconter c'est quoi l'histoire de Rabbi Akiva. Alors l'histoire de Rabbi Akiva, elle est racontée dans 2 endroits dans le chasse, dans Ktuvot d'Af Samerbet, et aussi dans Nedarim d'Af Nun. Rappelez-vous. Alors dans Ktuvot d'Af Samerbet, ah ouais, c'est un minimum. Alors écoute, alors l'Agma dans Ktuvot dans truc, et l'Agma dans Nedarim d'Af Nun, ok ? Alors l'Agma dans Nun, elle dit comme ça. Elle raconte l'histoire qu'il y avait je me rappelle, quand j'étais jeune, j'allais à Mir. J'étais à Kol Torah, mais après Purim, tu sais, ça n'étudiait pas tellement bien. Alors, pour avoir une meilleure ambiance, je prenais une chavouta, on allait à Mir. Et là-bas, Mir, c'est sans arrêt. Il y a toujours du monde. Donc, toujours, il y a une ambiance qu'il y a du limoun. Tu sais, quand tu n'as pas les nerfs des fois et tout, tu n'as pas envie de trucs. Tu as besoin du... Imagine, par exemple, tu n'as pas les nerfs d'étudier. Mais t'as une avira, ça étudie, ça brain, comme on dit. Ça brain. Ouais, il y a ce qu'on appelle du steigen. Je me rappelle, à Pavé, il y avait un type qui était payé. Il y avait un type qui était payé, un super hachou de Jérusalem. Il était payé pour dire « Esh atere, esh tere, fire tere, fire tere », genre le feu de la Torah. Il passait entre les bancs, il disait « fire tere, le feu de la Torah ». Kitso. Donc imagine, il y a de l'ambiance, le matin ou l'après-midi, ouais. Et le soir, quand je viens, ouais, le soir. Il y a l'ambiance, tu entends du bruit. Même si tu n'as pas envie d'étudier, mais ton pantalon, il est scratché sur le banc. Pourquoi ? Parce qu'il y a la vira, il y a l'ambiance. Okay ? Mais s'il n'y a personne qui étudie, toi aussi, tu n'as pas les nerfs d'étudier. C'est connu. Donc je me rappelle, j'allais à Mir, et il y avait un type comme ça, il étudiait Zvachim Lachot et 2 gmarot, super compliqué. Et c'était comme ça, les types. Ils étudiaient 2 gmarot en même temps. Okay ? C'est des monstres, quoi, les types. Alors, on ne va pas essayer de faire comme lui, mais regardez, l'Agma dans Ktuvot, elle raconte. Écoutez ce que l'Agma raconte.
Ah, vous avez fait une
chasse, hein. Akiva, Rabbi Akiva, bien sûr. Écoutez, l'Agma raconte comme ça. Rabbi, au début, il y avait un monsieur que bon, tout le monde connaît. Hein. Ça m'a fait. J'ai eu un peu honte parce que ce Shabbat, je vais pour leur raconter l'histoire de Rabbi Akiva. Il me dit, papa, on a 12 ans, ça fait 12 ans qu'on la connaît, cette histoire. Chaque année, on la connaît. Tu ne vas pas nous la répéter, genre. Alors je lui ai dit, si on ne parle pas de Rabbi Akiva, de qui on va parler ? En tout cas, avant de parler des élèves de Rabbi Akiva, on va parler de qui Akiva. Akiva, Au début, il a écrit dans la Gemara qu'il était il s'occupait des bêtes, des vaches, de Calva Bar Savoie. Calva Bar Savoie, c'était Calva Bar Savoie. Calva, c'est un chien, Bar Savoie, qui est rassasié. Et la Gemara, dans Gitsin, Nunzaïd, Amoudbet, la Gemara, elle dit que pourquoi il s'appelait Calva Bar Savoie ? Tout celui qui rentrait affamé, il sortait rassasié comme un chien. Ouais, donc il était bien rassasié. Non, Calva Bar Savoie. Tout celui qui rentrait affamé comme un chien, il sortait rassasié. Donc le type, bon, c'est un surnom assez rigolo, quoi, son nom, mais en tous les cas, Akiva, il s'occupait des vaches de ce Calva Bar Savoie. Et voilà que ce Calva Bar Savoie, il avait une fille qui s'appelait Rachel. Et vous imaginez, ouais, Rachel, elle se promène, elle voit Akiva, coup de foudre. Ouais, bon, ça c'est dans Picsou Magazine, mais l'histoire vraie, c'est qu'elle a vu dans ses yeux que Rabbi Akiva, il avait beaucoup de potentiel. Mais il avait déjà 40 ans. Elle était jeune, une petite jeune de séminaire comme ça. Son père, maintenant, il avait tout l'argent du monde. Ok, il aurait pu lui trouver le meilleur barro de Kol Torah ou de Ponovitch ou de Hebron. Ouais, le meilleur échivote. Sans problème, tu proposes à n'importe qui, tout le monde aurait voulu. Mais Rachel a dit non, moi je prends celui-là. Son père lui dit, mais attends, vous connaissez les histoires. Un religieux qui ramène un juif, qui ramène quelqu'un de non-juif ou un truc comme ça. Voilà, c'est pas toujours il y a les embrouilles, okay, entre les parents et tout ça, c'est la grosse galère, grosse bagarre. Donc bien sûr, lui, Calva Bar Savoie, il a dit, regarde, Rachel, je t'explique. Ton coup de foudre, je le comprends. Mais regarde, si tu oses te marier avec un vieux comme ça, idiot, qui a rien de Torah, je fais un vœu que tu n'as pas le droit de toucher à un sou de tout le monde. Je t'aiderai même pas pour acheter une cuillère pour ton mariage. Écoutez ça. Une fille normale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est bête. Son père, il roule en Ferrari, ok? Et ton père, il peut te gâter de... Elle peut ne pas travailler toute sa vie. Alors, regarde la femme, ce qu'elle rêve, c'est de ne pas travailler, ok? Elle peut vivre. Ouais, ou dépenser, même si elle n'est pas dépensière, mais au moins vivre tranquillement, sans stress et sans truc. Et donc, Mabaya, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Et donc, ouais. Alors, Rachel, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, papa, si t'as pas envie de me suivre, tant pis, moi je vais décider. Vous connaissez des gens têtus comme ça? Tu peux rien faire? Attends, une seconde. Ça, je le raconte en mode Picsou Magazine, et après, on truc. Donc voilà que maintenant, donc ils se marient et voilà qu'ils n'ont pas un sou. Donc ils ne font pas le mariage comme elle a rêvé. Ils ont fait le mariage dans une maison, un truc rapide quoi. Dans un champ. Mais même dans un champ, c'est classe. Hein, t'sais. Et bref, avec les vaches. Bref, et voilà, écoute. Et maintenant qu'ils commencent à... Donc ils avaient une petite caravane comme ça. Et ils avaient un peu de foin pour dormir. Et voilà que Eliyahu Hanavi, pour consoler la Rachel, qu'est-ce qu'il fait? Il lui envoie, il se déguise en pauvre, il toque comme ça, il dit, oui, Rabbi Akiva Ilouv, il dit, qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Vous aurez un peu de foin, parce que je n'ai pas d'oreiller, vous aurez un peu de foin. Alors Akiva, il console sa femme, il dit, tu vois, il y a des gens que même du foin, ils n'ont pas. Nous, on a du foin. C'est comme ça qu'il faut voir la vie, tu vois. Pas toujours regarder le verre, à moitié vide. Regarde le verre à moitié plein. Et voilà que qu'est-ce qui se passe maintenant? Rabbi Akiva lui dit, regarde, Akiva lui dit, si maintenant je touche, je gagne de l'argent, je promets que je vais t'acheter un collier chopard déguisé décoré de tout Jérusalem. Ok? Un gros collier. Et voilà que Rabbi Akiva, maintenant sa femme lui dit, ok, on s'est assez amusé. Maintenant, tu vas aller, tu m'as promis que tu allais étudier. Donc, il part étudier. Et tout le monde connaît l'histoire. Il commence à étudier avec des enfants. Il y a des enfants du Cheder qui connaissent Aleph Bet. Lui, il apprend. Il commence à grandir. Il reste là-bas avant. Quand tu partais, c'était pas tu partais pour 3 mois, 1 an. Ouais, 1 an et je refais pas l'année des Shiva. Non, là-bas, il est parti. Minimum, c'était 12 ans. Il est parti, tu vois? 12 ans, il est allé étudier à l'échelle. Il revient, tout le monde connaît l'histoire, il revient et il entend derrière la porte, la voisine, elle vient chez Rachel, donc la fille du riche. Elle dit, regarde, t'es folle ou quoi? Ton père, c'était un riche. toi, tu t'es marié avec un type qui pige rien, qui connaît rien, ok ? Tu as misé sur lui, ok, mais tu t'es pas marié, tu es une veuve, 12 ans, il n'est pas venu. Qu'est-ce que tu fais alors ? Tu n'es pas marié, alors reste avec ton père, au moins tu profites. Elle a dit, moi si c'est 2 mois, il peut aller retourner encore 12 ans, jusqu'il parte. Qu'est-ce qu'il a écrit ? Rabbi Akiva, il n'est pas rentré. Il n'est pas rentré dans la maison. Il a fait marche arrière. Qu'est-ce que vous aurez fait, vous ?
J'aurais dit juste bonjour et je repars.
Voilà. Il a fait marche arrière, il est reparti de 12 ans. Ok, maintenant, alors après, M. Shmulevitz, il demande une grosse question. Il demande, attends, minimum, c'est rentre, fais-lui un bisou. Dis-lui quelque chose, bois un verre d'eau, quelque chose. Il y a une blague qui dit que quand tu rentres dans la maison, tu ne peux plus sortir après. Bon. Mais Bémet, pourquoi il n'est pas rentré ? Il dit après, M. Shmulevitz, il dit que c'est connu dans les chevaux, ce vort-là. Il dit que 12 et 12, ça ne fait pas 24. 12 et 12, ça ne fait pas 24. C'est le retsef. C'est la continuité. De rester dans le limoud sans arrêt, être ancré. Essayer de, par exemple, comme je vous ai dit, vous venez étudier, tu veux étudier une demi-heure. Une heure. Une heure et quart. Mais il faut décider, avant de commencer le limoud, je veux étudier ça. Bah, j'ai pas les nerfs, je reviens de vacances, j'ai pas les nerfs. Pourquoi t'as pas les nerfs ? La Makara, c'est la Torah. C'est quoi, j'ai pas les nerfs ? La Torah, c'est... Allô, le Mashiach, il arrive bientôt. Ouais. Le Mashiach, il arrive.
Mais...
Écoutez, entre parenthèses, vraiment, quelque chose qui m'a choqué pour faire un peu de rizouk, là. Vraiment, j'ai besoin de faire du rizouk. Entre parenthèses, vraiment, c'est aucun rapport. Il y a eu, la semaine dernière, avant que le Zman y commence, avant que le Rosh Chodesh arrive... Il y a eu, moi je suis parti à Tibériade, et il y a aussi des chassidim qui sont allés à Méron. Ils sont allés à Méron pour pèleriner Rabbi Shimon Bar Yochai, pour lui demander de passer un bon zman. C'est quoi un zman ? C'est, par exemple, là vous êtes rentré pour une période de 3 mois. Ça s'appelle un zman. Ça s'appelle zman kaïds, le zman d'été. Le zman d'été, 3 mois après les vacances, après Elul, ouais, Chorev, il a fait mode. Chorev, c'est hiver. Alors maintenant, donc ils sont allés prier Rabbi Shimon Bar Yochai au retour. Ils ont vu quelqu'un qui avait une camionnette. Il dit, vous n'allez pas par hasard, je ne sais pas où. Je dis, oui, on va. Il dit, ok, tu vas ? Il dit, ouais. Donc, ils sont montés. Le type, je ne sais pas quoi, il s'est endormi. Sa camionnette, elle s'est retournée. Et un des barreaux, accident grave, un barreau, il est décédé. Et ce barreau, c'était un monstre, c'est pareil. Je ne l'ai pas connu, mais c'était un monstre racine. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a rien fait de mal. Il n'est pas allé en boîte. Il est allé pèleriner le Rabbi Shimon, ok ? Alors sa mère, elle ne s'arrêtait pas de pleurer. On ne va pas parler des choses tristes, mais elle ne s'arrêtait pas, elle était triste. Et le Shabbat, c'est le jour le plus triste, parce que c'est là que tu vois qui manque. Elle avait que son fils il manquait, elle a commencé à pleurer, jusqu'à qu'elle allait dormir. Et à un moment, elle n'arrivait pas à dormir, à un moment, tant qu'elle est fatiguée, elle s'est endormie. Et voilà, une vraie histoire, une histoire qui s'est passée, que j'ai entendue. C'est une vraie histoire qui est arrivée la semaine dernière. Le fils, il est venu en rêve à sa mère. Un vrai, hein, parce que ce n'est pas du mytho. C'est quelque chose que 4 personnes, ils ont témoigné, des grands rabbanim. Et il est venu, moi je ne suis pas un type qui croit à n'importe quoi, il est venu le fils chez sa mère, il dit « Maman, je n'ai pas le droit de tout te dévoiler, sache que je suis très bien où je suis, mais sache que pourquoi je suis mort ? Parce que le Ham Israël, ils disent beaucoup de la Shonara, de médisance. Et le Hachem, il ne supporte pas quand on dit du Hachonara. C'est comme si maintenant, demain, je parlais sur ta famille. Tu vas me donner de suite un coup de poing. Qu'est-ce que tu parles sur ma famille ? Eh bien, la même chose. Hachem, tout le peuple juif, c'est sa famille. Il ne supporte pas qu'on parle de la médisance. Et il dit, moi, lui, vraiment, ce barreau-là, il travaillait beaucoup sur l'Hachonara. Mais comme c'est un tzadik, alors il a payé pour nous tous. Mais il a dit, sachez, écoutez, ça c'est le chizouk, il a dit, sachez que celui qui fait un peu de Shmirat HaLashon, il y a un livre du Chafetz Chaim qui s'appelle Shmirat HaLashon sur la Shonara, très connu. Il dit que celui qui fait une halakha par jour pour ce travail-là, sachez que le Chafetz Chaim lui-même, quand tu montes dans les cieux, quand tu monteras à 120 ans, c'est lui ton avocat pour toi. Bien que tu as dit la médisance, mais comme tu as appris, tu as fait des efforts pour essayer de ne pas en dire, le Chafetz Chaim lui-même, il viendra être ton avocat. Donc là, moi, ça m'a fait, la vérité même, ça m'a fait bouger. Et je dis, même dans mon Beta Midrash, Blin Eder, on va faire tous les jours une halakha. Et c'est important parce que c'est important parce que de faire l'halakha de sur la Lachonara, c'est mamash. Quand tu entends ça, tu entends qu'il y a des gens qui meurent à cause, pour réparer ça, ça fait peur. Quoi. Il était jeune
en plus, non ?
Oui, avec des jeunes. Bon, lui, il est parti. Parce qu'on sait, on comprend pas. Il y a une fille, là, maintenant, par exemple. Stam, en parenthèse aussi. Il y a une fille qui est décédée à Tifrar. Elle avait 19 ans. Ça fait 7 ans qu'elle est décédée à Pauvre. Bon, on va pas parler de ça, mais en tous les cas, elle est décédée à 19 ans. Vous écoutez ? Et personne n'a compris pourquoi elle est décédée à 19 ans. Bon, jamais on comprend, mais elle était tzadikette et tout. Bon, une fois, elle est venue en rêve à sa sœur. Sa sœur qui avait 8 ans, qui est décédée, elle revenait à 12 ans. Elle lui dit à papa et maman, elle lui a montré, elle lui a fait rêver l'endroit où je suis. Ouais, c'était Davos, un beau lac et tout. Elle dit, sache que je kiffe. Ouais, et dit à papa et maman que voilà, mon histoire, elle est comme ça. Moi, à la Shoah, j'étais entre... On m'avait... comme il y a eu la guerre et tout, on m'a mis chez des non-juifs. Donc jusqu'à 19 ans, je n'ai rien pratiqué. À 19 ans, j'ai fait tchouva. Et depuis 19 ans, après, j'habitais à Bnei Brak, j'ai beaucoup d'enfants, etc. Mais quand je suis monté dans les cieux, ils m'ont dit, regarde, jusqu'à 19 ans, tu n'as pas pratiqué. Alors tu as le choix, ou bien tu stagnes, ou bien tu voles, ok, mais comment tu vas voler? Ou bien tu descends en bas et tu arranges, ou bien tu vas au Guéhinnam, tu vas dans le feu. Qu'est-ce que tu préfères? Elle dit, je descends. Donc je suis venu dans votre famille. Jusqu'à 19 ans, j'ai fait ce que j'avais à faire et je suis reparti.
C'est-à-dire, elle se rappelait de son ancienne vie.
Ouais, elle lui a raconté tout. Bien sûr, tu te rappelles quand tu montes en haut. Tu sais pourquoi tu es venu.
Mais la Neshama, l'ancien Gigoul qui est venu dans le nouveau corps, il se rappelle de ses antécédents?
Ouais, je pense, ouais. Non, mais après, quand elle est remontée, on lui a tout dit, quoi. On va dire ça et dire ça. Et ça, c'est une vraie histoire, encore une fois. C'est une vraie histoire que le gendre de Raphaël Kalinowski l'a raconté. Je ne suis pas le type qui croit tout à ces histoires, mais là, c'est deux histoires qui sont vraies. Pour vous dire que. Sachez que chaque chose a une raison, et bien que c'est triste, ok, mais sachez que chaque chose, s'ils partent, il y a des gens qui partent un peu plus tôt que prévu, tout est géré, il n'y a pas des choses qui ne sont pas gérées. Okay. Non, en parenthèse, donc Rabbi Akiva, il est reparti de 12 ans. Pourquoi il n'est pas rentré de dire bonjour? Parce que s'il était rentré, ça aurait fait un arrêt. Donc il est revenu après 24 ans. Il est revenu avec 24 000 élèves. Au début, il pigeait rien. Et quand sa femme, elle lui a dit, regarde, tu vois l'eau quand elle tombe, l'eau de la fontaine, elle tombe sur la roche, tu vois qu'il y a, ça fait un trou. Comment c'est possible? La première goutte, tu verses de l'eau sur un rocher, ça ne fait pas de trou. Alors c'est quelle qui a fait le trou? C'est la première ou la deuxième ou la dixième? Il lui a dit, c'est chaque goutte, elle a fait son nid. D'accord? Elle dit la même chose, la Torah... Au début, elle est dure à pénétrer, on ne comprend rien, on ne pige pas, on n'a pas les nerfs. Mais quand on décide de rentrer dedans, on est à fond. Rabbi Akiva, il est revenu, il n'est pas votre âge. À 40 ans, il a commencé. À 40 ans, c'est déjà l'intelligence. Bon, à 40 ans, c'est bon encore. Mais tu vois, à 40 ans, ce n'est plus la fraîcheur de votre âge. Je t'assure, Bémet, ce qu'on a étudié à Kol Torah, je me rappelle des dapim. Mais même mes copains, tu vois, ce qu'on a fait à la yeshiva, tu te rappelles, frais comme. Tu sais, comment ça s'appelle? On photographie les dapim, tu vois? On photographie. Je me rappelle, c'était ce daf-là en haut. Tu te rappelles, tac, tac, tu dis, je me rappelle. Et ça, c'est de 17 ans. Tout ce que tu fais à l'âge de 17 jusqu'à 21 ans, la mémoire, elle est de folie à cet âge-là. Tu n'as pas de soucis. C'est pour ça qu'il faut pas. C'est mieux de ne pas avoir de copine, tout ça, jusqu'à. Bon, de toute façon, on ne va pas avoir de copine. Mais celui qui a une copine, il est toujours tracassé, il doit l'appeler, il doit pas truc. Ça le dérange dans les moods. T'es tranquille, t'as rien, célibataire, ouais.
C'est
donc,
voilà, lâcherai pour
être absorber, exactement absorber un top, même quand on fait les études, etc. Donc, bref, en deux mots, le Rabbi Akiva, il revient avec 24 000 élèves. Écoutez bien ça, c'est un tosfot de malade, d'Av Samer Gimel. Il dit le tosfot, l'Agmal, il revient, maintenant, sa femme, elle vient à sa rencontre. Pitom, une femme, elle marche devant des religieux, 24 religieux, 24 000. Les 24 000, ils disent « Oh, ma femme, mettez-vous de côté, c'est des hommes maintenant. » Rabbi Akiva, il s'arrête, il dit « Poussez-vous. Sachez que tout ce que vous avez, moi et eux, et vous, c'est grâce à elle, c'est ma femme. » Donc maintenant, il arrive dans la ville, et puis Tom, le riche, il entend qu'il y a un grand rave qui arrive. Il dit « C'est qui ce riche-là ?» C'est le père qui lui avait... Il lui dit bah, « Sache que c'est ton gendre. »« Quoi, c'est mon gendre ? Celui qui comprenait Kovach, il est devenu comme ça, je ne crois pas. » Il dit « Oui, c'est lui. » Maintenant, il était embêté. Il a dit, comment maintenant je vais faire, comment je vais enlever mon vœu? J'ai fait un vœu. Alors, il a enlevé le vœu et après, il lui a donné la fortune à Rabbi Akiva. OK? Et Rabbi Akiva, il a acheté la parure Chopin à sa femme. Tosfot, il demande une question. Écoutez ce Tosfot-là. C'est un Tosfot que, vraiment, à 16 ans, on me l'avait fait ce Tosfot. Depuis, photographie, elle est ici. Tosfot dans Ktuvot, Daf Samer Gimel, il demande une question super belle. Il dit, il y a une halakha dans Nedarim, ouais, Gma dans Nedarim, il y a une halakha, tu entends, écoute ça, qu'un vœu qui s'appelle Nolad, qui n'était pas à prévoir, qui, par exemple, vous savez que dans le Moukseh, dans Moukseh Shabbat, vous savez c'est quoi Moukseh Shabbat, ouais. Par exemple, de l'eau qui est née le jour de Shabbat, c'est Moukseh, un des Moukseh les plus durs. Par exemple, de l'eau qui sort d'un Mazgan, ouais, l'air conditionné, le moteur, il sort de l'eau. Imagine maintenant, j'ai mis une bassine et j'ai fait tomber de l'eau dans cette bassine-là le jour de Shabbat. Le moteur, il a fabriqué de l'eau. Cette eau, elle est Moukseh. Moukseh, mais d'un niveau très très haut, je n'aurais pas le droit d'utiliser. Ça s'appelle Nolad. Dis Tosfot. Tosfot, il demande dans Neder aussi. Le Rav, il peut retirer un Neder, un vœu, il peut l'enlever. Ouais, on peut enlever. Si ça fait un vœu, tu entends ? Le Rav, il peut l'enlever. Mais si c'est Nolad, si c'est un vœu qu'on ne pouvait pas prévoir, le Rav ne peut pas l'enlever. Demande Tosfot. Comment c'est possible que Rabbi Akiva, il a retiré le vœu de son beau-père ? Arrête, c'est Nolad. C'était pas à prévoir qu'il allait devenir un gaon. Alors le type, il comprenait qu'au vache. Oh merde, t'es fess. Il dit Tosfot. Il dit Tosfot. Regarde Tosfot. Il y a Shreimar. Des arlo chashim Nolad. Regardez bien ça. Kivan shalach le berav. Des derech ou beoler l'ilmot chenase odom gov. Je me rappelle ça. Rav Wolbe, il nous le disait toujours. Ouais, et mon Mashgiach aussi, il disait toujours, il répétait ça, ce Tosfot-là. Tosfot nous dit que ça ne s'appelle pas quelque chose de pas normal. Il dit, tout celui, écoutez bien ça, qu'est-ce que j'ai demandé ? Tosfot, il demande, c'est pas normal de devenir, quand tu es idiot, c'est pas normal de devenir une bombe atomique, ok ? Raphaël Kanievski, tu crois qu'il comprenait, qu'il s'occupait des vaches ? Ouais, tu es allé voir Raphaël Kanievski ? Tu n'es jamais allé le voir ? Va le voir. Raphaël Kanievski, tu crois qu'il a compris aux vaches ? Il était toute sa vie à Bnei Brak en train de tuer à la Torah, Nortere, Otpam, Bovekam, Otpam, Ksuves. Tu crois qu'il s'ennuyait le type ? Rabbi Akiva, donc c'est pas possible de prévoir qu'un. Donc Tosfot, il demande, comment on peut en retirer un vœu comme ça ? Tu es d'accord avec la question ? Tu as compris la question de Tosfot ? Réponds Tosfot, c'est pas quelque chose d'imprévisible. Pourquoi ? Dis Tosfot, écoutez bien ça, écrivez ça. Car tout celui qui va en yeshiva, c'est sûr qu'il va sortir un homme gadol, un grand homme. Dis Tosfot, tout celui qui va à l'yeshiva, il y a aller et aller. Ouais, il y a aller au ping-pong et aller à l'yeshiva. Ok ? Donc celui qui va à l'yeshiva, il va devenir un grand homme.
Waouh !
Rabotai, quand on voit un Tosfot, ça nous donne la pêche, la rose de Tosfot là. Ouais, Naron ? Ça, c'est un Tosfot dans tout votre d'Afsamer Gimel. Il faut se rappeler de toute sa vie. Toute votre vie, vous allez vous rappeler, ok ? Il dit, Tosfot, tout celui qui va en yeshiva, il va devenir un grand homme. Donc déjà, c'est pour cela que Rabbi Akiva a pu retirer le vœu, parce que ce n'est pas quelque chose d'imprévisible, parce que c'est oui prévisible. On sait que quand on va dans une yeshiva, on devient un grand homme. Ça, c'est Rabbi Akiva. Il nous apprend le message de Rabbi Akiva. Je continue, je n'ai pas fini. Donc, Tosfot, il nous dit ça. Mais ensuite, Rabbi Akiva, il a formé 24 000 élèves. Dans l'Agma, dans Yevamot, Davsa Merbet aussi, c'est rigolo parce que c'est les mêmes d'Apim. L'Agma, dans Yevamot, Davsa Merbet, elle dit que. Écoute. Ici, voilà. Amrush, Nem et Asa, Elef Zugim, Talmizim, Ayoub, le Rabbi Akiva. Il avait 12 000 paires d'élèves, Rabbi Akiva. Tous les commentaires disent. C'est quoi 12 000 paires ? Tu sais pas parler en hébreu ? 24 000, tu sais pas dire 24 000 ? C'est quoi 12 000 paires ? Il faut que je fasse le calcul ? Ouais, il y a un message qui se transmet là, 12 000 paires. Zougot, c'est quelque chose de... Quand on parle de zougot, bon, dans le maral et tout, c'est un truc de ouf, les zougot. Mais zougot, c'est-à-dire ils sont déjà arrivés à un degré de zougot, des couples, c'était des couples, genre. Voilà, chacun était lié. Dis l'Agma, écoutez la fin tragique de ses élèves. Écoutez. Amrou, Shnemasa, Elef Zugim, Talmidim, Ayoul le Rabbi Akiva. Il avait 12 000 paires d'élèves, donc ça fait 24. Migapat ad Antifras. Depuis Gabat jusqu'à Antifras. Ve Kula Metu be Perekichad. Ils sont tous morts dans une période. C'est quoi la période ? Pessah, Hatshavot. Lama, dis l'Agma, Mipne shelo nagu kavod zelazé, car ils n'ont pas fait de kavod un à l'autre. Dilagma vaaya aolam shamem. Le monde, il était sheket. C'est comme le dimanche. Shamem, comme le Shabbat. C'est un jour calme. Le monde était calme. Il n'y avait plus de Torah. On ne sentait plus. C'était la kata. La kata de la kata. Vous savez que Raphaël de Shmuel Levitz, il dit que s'il y a une seconde dans le monde, prends le monde, il est rond. Raphaël de Shmuel Levitz, il dit, prends le monde, il est rond. Parce que quand toi, tu es à Melbourne, tu dors. Moi, à Jérusalem, j'étudie. Et quand moi, je dors, toi, tu étudies. Le monde, il est comme ça. C'est pour ça qu'il y a des changements d'horaire, ok? Parce que si une seconde dans le monde, il y a quelqu'un qui n'étudie pas, s'il y a une seconde dans le monde sans études, le monde, il disparaît. Donc le monde, quelque part, il est en train de disparaître, là. Il n'y a plus de Torah. 24 000 élèves, toute la Torah de Rabbi Akiva, elle a disparu. Ad sheba Rabbi Akiva et tsel rabotenu sheba darom, jusqu'à que Rabbi Akiva, il est venu chez nos maîtres dans le sud, veshana laem, il leur a enseigné, c'est qui? Rabbi Meir Balanes, donc Motsé Shabbat, c'est le Iloula de Rabbi Meir pour les Tunisiens. Ok. Rabbi Houda, Rabbi Yissi, Rabbi Shimon Bayochai, et Rabbi Elazar ben Shamua. Rabbi Shimon Bayochai, c'est quand qu'on fait la Iloula de Rabbi Shimon Bayochai? Qui c'est? C'est quand? L'Akba Omer. Où elle se trouve dans le chasse? Où elle se trouve dans la chasse, l'histoire de Rabbi Shimon Bayochai? Shabbat Lamed Gimel. Rappelez-vous, Shabbat Lamed Gimel, c'est facile. Shabbat Lamed Gimel, il est mort. Sa Iloula, c'est l'Akba Omer. Et l'Agma se trouve dans Shabbat Lamed Gimel. Ok, donc tout ça, tous ces cinq élèves. De ces cinq élèves, toute notre Torah là qu'on a, toute la chasse, tous les sfarim, toutes les encyclopédies qu'on a, toute cette Torah là, elle vient de ces cinq élèves. Imaginez-vous, si cinq élèves, toute la Torah qu'on a, c'est ces cinq élèves, alors c'est 24 000 élèves, c'est un truc de ouf. Et c'est des Tanaïm, c'est pas des Amoraïm, c'est des Tanaïm. Vous savez c'est quoi un Tana? Un Tana c'est un malar. Ouais. Maintenant, la question que je vous demande. Vous savez qu'une personne qui fume Shabbat, et il sait, et il y a le Beit Din, il y a le tribunal, il y a le Beit Amikdash, et on l'a averti, deux témoins l'ont averti, attention, c'est interdit de fumer Shabbat. Et il a fumé devant deux témoins, on le prend et qu'est-ce qu'on lui fait? On le lapide. Ce qu'il a. Maintenant, quelqu'un qui te manque de respect, quand il y avait le Beit Amikdash, on te lapide, est-ce que tu es coupable de mort? Non, dans la Torah, est-ce qu'il y a écrit qu'une personne qui manque de respect est coupable de mort? Non. Si tu fais de l'adultère, si tu transgresses Shabbat, si tu fais shfichut damim, tu tues des gens, là tu vas être coupable de mort. Mais si tu as manqué de respect à ton copain, on a vu qu'une personne elle meurt à cause de ça. Donc la question déjà, la première question que tout le monde pose, qu'est-ce qui fait? Parce que chez l'Onagou Kavod Zelazer, ils sont morts, c'est pas compréhensible. Deuxième question, est-ce qu'ils ont cette période-là qui était entre Pessah et Hatsered, c'est tombé au pif que c'était cette période-là qu'ils sont mal comportés, ils sont morts, ou bien précisément, ils sont morts dans cette période-là? Troisième question que je pose, est-ce que parce qu'ils étaient les élèves de Rabbi Akiva qui sont morts ou non? Alors, j'ai oublié d'amener une main là. Ouais, mais je me rappelle. En fait, toutes les trois questions, les questions, c'est les réponses. Chaque question, elle répond à l'autre. Ça veut dire quoi? C'est que la Gemara dans Shabbat, Kouf, Kaf, Zayin, ok? La Gemara, elle raconte une histoire. C'est pas écrit que c'est Rabbi Akiva, mais dans les commentaires petits, c'est écrit que c'est Rabbi Akiva. C'est quoi l'histoire? Il y avait une fois, une personne qui était immensément riche, qui a employé un monsieur à travailler. Il a travaillé. La veille de Yom Kippour, avant les fêtes, il a besoin d'espèces, ouais. Ouais. Parce que c'est pas qu'une Gemara que tu vas payer les costumes de tes enfants et que tu vas payer le manger de Sukkot. Ok? Donc il faut du cash qu'on appelle, ok? Maintenant, donc il vient Rabbi Akiva, il a travaillé, il lui doit l'argent, donc il dit, je veux de l'argent. Alors il vient, il dit, donne-moi l'argent. J'ai pas d'argent. Bon, il dit, alors tu sais quoi, t'as pas d'argent? Donne-moi un terrain. J'ai pas de terrain. Donne-moi ta bête. J'ai pas de bête. Donne-moi ta voiture. J'ai pas de voiture. Donne-moi des fruits. J'ai pas de fruits. Donne-moi des coussins. J'ai pas de coussins. Donne-moi des couvertures. J'ai pas de coussins. J'ai couverture. Bon, il est dit à Gmara, écoute, Rabbi Akiva, il est parti, il était triste et il est parti. Après la fête, t'entends? Après Sukkot, le riche en question, il vient chez Rabbi Akiva avec une grosse enveloppe comme ça, ce qu'il lui devait, et avec trois ânes remplis de manger, de boissons et de cadeaux. Et il dit, je m'excuse de ce qui s'est passé, voilà ce que je te dois. Mais je vais te demander une question à toi. Et c'était Rabbi Akiva. Hein. Il n'y a pas écrit dans le chat que c'est Rabbi Akiva, mais c'est dans les petits commentaires écrit. Je vais te demander, dis-moi, quand tu m'as demandé est-ce que j'avais de l'argent, je t'ai dit que je n'ai pas d'argent. Qu'est-ce que tu m'as soupçonné ? Il m'a dit, moi, ben, j'ai pensé, Pachout, que tu as trouvé. On t'a proposé, il y avait un business, il y avait un lot à acheter, un gros lot, c'était une grosse affaire. Donc tu as investi tout ton cash et tu n'avais pas maintenant de l'argent à me donner. Il me dit, quand je t'ai dit que je n'ai pas de terrain, je dis parce que tu avais un contrat avec quelqu'un. Quand je t'ai dit que tu n'as pas de fruits, j'ai pas de fruits, bah tu les as pas prélevés. Quand je t'ai dit que j'ai pas de bêtes, tu l'as prêté, etc. etc. Il lui a dit, et quand je t'ai dit que j'ai pas d'oreiller, il lui a dit, ben, j'ai pensé que tout est bien, tu les as donnés au Bet-Amidash. Il lui dit, je te jure que tout ce que tu m'as soupçonné, tout ce que tu m'as dit, c'était pas un soupçon, c'était vrai. De là, on apprend Rabbi Akiva comment il était VAV d'un état d'âme des Kaf Zechout. Il faut juger les personnes toujours dans le positivement. Il y avait une histoire qu'on a racontée dernièrement. Il y avait une fois une grande synagogue de religieux. Il y a une personne, pas super religieuse, elle rentre dans la synagogue comme ça, tout frais comme ça. Ouais, en mode The Couple pour les gens qui aiment Couple, ou en mode Boss pour ceux qui, qui comprennent un peu mieux. Et il rentre dans la synagogue, ok, tout frais. Il dit Rabotai, j'ai un chiouv, ouais, j'ai une askara, est-ce que je peux monter à la 7e montée ? Bon, il disait ok, vas-y, monte. Il monte, la 7e montée. Et voilà que, en plein milieu qui finit la bracha, on entend son téléphone, il sonne. Marchouma, le jour de Shabbat, le téléphone, il sonne. Tous les gens, ils veulent lui jeter des pierres. Comment toi, le gabaï, tu t'es pas renseigné, tu nous fais monter des gens non religieux. En plus, 7e montée, c'est une montée importante, t'es fou, quoi. Et le gabaï, il voulait. Et le type, il sort, ok, il parle de la synagogue, et le gabaï. Celui qui s'occupe de la synagogue, il voulait sortir pour l'incendier. T'as pas honte de nous avoir comme ça, tu montes et tu n'es même pas capable d'éteindre ton téléphone. Le rav, il a dit au gabaï, tu sors pas, c'est moi qui sors, le rabbin. Le rabbin, il sort et dit, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'embrouille? Il dit, ah, je vais t'expliquer l'histoire. Moi, je suis un chirurgien de cœur, ouais, je suis un gros professeur. Et pas chute, maintenant, j'ai une obligation de monter à la Torah pour un proche, pour mon père, pour ma mère. Et voilà que je suis venu. Mais là, le coup de fil que j'ai reçu, c'était, il y a eu un grave accident. Ils m'ont appelé pour venir opérer de suite à l'hôpital. Vous voyez ? Donc son téléphone, il a sonné ! C'était pas sa copine, c'était pas sa femme. C'était qui ? C'était l'hôpital. V.A.V. Dan et Adam et Kazro. Ça, c'est Rabbi Akiva. On voit dans tout le chasse Rabbi Akiva comment. Il y avait Shimon Amoussi, ouais. Psachim Davkavet. Shimon Amoussi. Il a écrit qu'il a, il a appris tous les Etch Batorah. Chaque fois qu'il y a eu le mot « et », il lui a donné une signification. Jusqu'à qu'il est arrivé « et Hachem lo kratira », ouais, « et Hachem lo kratira », il a lâché, il a dit « je ne sais pas, je n'ai pas d'explication, donc je me retire ». Mais ses élèves ont dit « pourquoi tu te retires? Tu as écrit tout un bouquin ». Il dit « ouais, mais comme je n'ai pas d'explication de 1, même si j'ai expliqué 10 000, c'est mort ». Jusqu'à qu'il est venu Rabbi Akiva, il lui a expliqué. Il a dit « et Hachem lo kratira », c'est-à-dire quoi, le « et » Tu craindras Dieu, ça veut dire quoi? Quand tu craindras Dieu, tu craindras aussi les rabbins. Comme ça, Rabbi Akiva, il a dit. C'est-à-dire que Rabbi Akiva, il connaissait tout. Il était d'Oresh tous les. Quand, et l'Agma dans Menachot, aussi, j'ai oublié, l'Agma dans Menachot aussi, on parle de Rabbi Akiva, même là-bas, on voit que Moshe Rabbeinu, là, on a fait presque la moitié du chasse, là. Moshe Rabbeinu, il a. Comment ça s'appelle? Il a demandé, montre-moi toutes les générations à venir. Il lui a montré les générations, il lui a montré tout, et il lui a montré Rabbi Akiva. Comment il étudiait tout ça. Et Moshe Rabbeinu, il s'est positionné dans le cours. Il a dit, je vais écouter le cours de Rabbi Akiva. Moshe Rabbeinu, il n'a rien compris. Moshe Rabbeinu, il a dit, tu as une bombe comme ça et tu donnes la Torah par moi, mais donne-la à lui. Je ne comprends même pas ce qu'il dit. Jusqu'à qu'à la fin du shiur, il entend Alacha le Moshe Misinaï. Tout ce que j'ai dit là, ça a été dit par Moshe. Et là, Moshe Rabbeinu, il s'est calmé. Il a dit, ah, ça va. Donc il revient à la source, c'est moi le patron. C'est-à-dire que Rabbi Akiva, c'était un monstre. Et c'est quoi sa fin? Sa fin qu'il est mort, le pauvre, ils ont pris sa peau avec des chaînes en fer, ils lui ont enlevé sa peau. Hein, des peines en fer, ils lui ont enlevé sa peau comme ça, Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, pendant qu'on lui enlève son peine, qu'est-ce qu'il fait? Il fait Shema Israël, Hashem Lokenu. Rabbi Akiva, il dit, je comprenais c'est quoi, Ve'afta, tu aimeras ton Dieu, Bechol Levavcha, avec tes deux penchants. Bechol Navshecha, Bechol Meodecha avec ton argent, je comprends. Mais Bechol Meodecha, jamais, j'attendais ce moment-là. Hein? Chol Nafshecha, ouais. Bechol Nafshecha, j'attendais ce moment-là pour l'accomplir. Et maintenant que ça arrive le moment, ce que je dis, Bechol Meodecha avec ton argent, et Bechol Nafshecha avec ton âme. Et j'attendais ce moment-là, et maintenant qu'il est arrivé ce moment-là, je ne veux pas kiffer. Et il est en train de mourir, il dit Hachem Echad. Ils étaient en train de lui enlever la peau, il est mort comme ça, en disant Echad. Alors Moshe Rabbeinu, il a dit quoi? Ça, c'est la Torah et ça, c'est son salaire? C'est qu'on embrouille là. Viens Hachem, lui dit Shtok, tais-toi. Comme ça, ça s'est monté dans la pensée. Alors, j'expliquerai une fois, c'est-à-dire quoi, Shtok? C'est pas que tous les gens, ils comprennent, genre, il a basé, il a dit te mêle pas, genre. Non, c'est pas ça le pshat. Dit le Maharal, Shtok. C'est une réponse. Tais-toi, c'est-à-dire tais-toi, écoute. Comme ça, c'était dans ma pensée. Quand j'ai créé le monde, je l'ai créé avec la rigueur. Après, j'ai associé de la rachamine. Mais au début, le monde était avec le din. Donc, ces gens... Donc, c'est pas que Hachem, je me suis planté, j'ai changé dans le chemin. C'est que le monde, pour les tzadikim, il est avec le din. Pour les gens comme nous, on a besoin de miséricorde. Mais les vrais tzadikim, Hachem, il est juste selon le din. Donc eux, ils font partie du din. Kach alav et marshava. Ma marshava, c'est-à-dire que ma pensée première du din. C'est beau? Donc il dit d'après ça. Alors je reviens maintenant. Rabbi Akiva, c'est un monstre en midot tovot. Il y a écrit dans Rabbeinu Yehine, il y a écrit dans Rabbeim Vital, il y a écrit dans la Goen Mivine, il y a écrit dans plein de livres. Ils disent comme ça, ils disent que les midot tovot, pourquoi la Torah, elle a pas, il n'y a pas de mitzvot d'être humble, des mitzvot d'être y a, tous les midot tovot, les bonnes midot que tu fais dans le Moussa, ils ne sont pas écrits dans le Shulchan Aruch. Pourquoi? Parce que c'est la base. Si on n'a pas des bonnes midot, il n'y a pas de Torah. Imen derheretz, un Torah. Si dit la Mishnah Avot, vav, un derheretz, un Torah. Il n'y a pas de Acheret, il n'y a pas de Torah. C'est-à-dire quoi? Que le Acheret, c'est pour commencer la Torah. Si tu n'as pas de Acheret, c'est quoi? Ferme ta Gemara. Si tu ne sais pas comporter, ferme ta Gemara. C'est-à-dire quoi? Chez l'onagou kavod zelazé, ma kavana, l'onagou kavod zelazé, rabotai. L'onagou kavod zelazé, c'est-à-dire que c'était un moment, on sait que le moment de Pipessar, Sfirat HaOmer, il y a 48 façons pour acquérir la Torah. 48 façons pour acquérir la Torah. C'est quoi? 48 kinyanim. Ouais. Et sur chaque jour de Sfirat HaOmer, on acquiert une façon. C'est des moments où il faut faire attention aux midot. S'il n'y a pas de midot, il n'y a pas de Torah. Les élèves de Rabbi Akiva, comme on va dans leur niveau, on ne peut pas parler d'eux, mais dans leur niveau... Il manquait du kavod. Et ce moment-là, c'est un moment qu'il fallait du kavod. Et eux, ils n'ont pas eu de kavod. Pas assez de kavod dans leur niveau. Ça fait qu'Hachem, il les a retirés d'Afka à ce moment-là de Kabbalat HaTorah. Et spécialement parce qu'ils étaient les élèves de Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva, c'était un maître de Midot Tovod. Comme je vous ai montré dans Shabbat Kuvukav Zayin, comme je vous ai montré dans Psachim, comme je vous ai montré dans Sanhedrin. Ouais? Rabbi Akiva, c'était un modèle, comme on l'a vu dans Menachot, ouais, et comme on voit dans Avodah Zara aussi. On voit tous ces endroits-là, on voit que Rabbi Akiva, c'était un modèle de Midot Tovot. Et eux, ils n'ont pas suivi ce modèle-là. Et qui nous ont laissé ces cinq-là? Olam Shamem. Olam Shamem, c'est-à-dire que le monde, ils étaient grands dans la Torah. Mais si tu n'as pas de Midot Tovot, Chazé Shalom, qu'on peut parler sur eux, qui nous sommes? Je ne suis même pas la poussière de eux. Mais, c'est-à-dire, nous, comment on prend du moussard par rapport à eux? Eux, ils n'étaient pas comme ça, mais c'est quoi notre moussard? De savoir que si on n'a pas des bonnes midotes, ouais, on étudie la Torah, mais on se comporte mal avec sa femme, avec ses enfants, avec ses copains, ça ne vaut rien la Torah, Chazé Shalom. Ça ne veut rien dire que ça ne vaut rien la Torah, mais il faut faire attention comment on parle, comment on gère les copains, comment on se comporte, nos midotes, comment on s'énerve. Ouais, on dégaine trop vite. Oh, ça va, qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai à peine regardé, tu me dis, oh, qui tu regardes? À Marseille, à peine je regardais dans le bus. Oh, qui tu me regardes? Je t'ai pas regardé. Oui, tu m'as regardé, tu sais, le TV veut se mettre en mode bagarre. Alors, de suite, j'ai appelé Ruzi. Donc, ça veut dire que quoi? Que, en fait, Zayisod. Et Isod, c'est quoi? C'est de savoir qu'on est dans une période de Aliyah, qu'il faut, bientôt on va recevoir la Torah de Shavuot, c'est la Torah principale, ouais. on va recevoir la Torah, il faut se préparer, préparer son ustensile pour pouvoir recevoir toute cette Torah-là. Ouais, on n'a pas tout fini, mais...